VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier, Anne Robertson. Au sommaire en ce mardi 31 mars 2015.
Résultat préliminaire de la présidentielle au Nigeria, le candidat d'opposition Muhammadu Buhari a une légère avance face au président sortant Goodluck Jonathan.
Les défenseurs congolais des droits humains solidaires à la campagne d'Amnesty International pour la libération d'une trentaine de jeunes militants pro-démocratie détenus en RDC.
Les activistes pro-démocratie ont été arrêtés et sont détenus au secret par des services de renseignement ANR sans possibilité de recevoir la visite familiale ni l'assistance de leurs avocats.
On entendra le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Maître Georges Kapiamba.
Le président Barack Obama se rendra en juillet au Kenya, pays natal de son père.
Problématique de l'eau dans le Delta du Niger, l'UNICEF a renforcé les capacités de la société malienne de gestion de l'eau potable.
Les 300 millions de francs CFA de l'UNICEF ont permis à certaines installations de la SOMAGEP et de l'hydraulique de se mettre sur pied, avec comme objectif faciliter l'accès des populations à l'eau potable à Tombouctou.
On suivra un reportage de Kassim Traoré.
Et nouvel avertissement du président turc à Téhéran, Ankara ne tolérera pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran. Tout d'abord, le journal.
Présidentielle au Nigeria, le candidat d'opposition Muhammadu Buhari, le chef de file du parti All Progressive Congress, a une légère avance face au président sortant Goodluck Jonathan selon des résultats préliminaires publiés lundi. D'après la Commission électorale nationale, Muhammadu Buhari, un musulman du Nord, devance Goodluck Jonathan dans 10 États, le président sortant ayant le dessus dans 8, ainsi que dans le territoire de la capitale fédérale Abuja.
Et toujours selon la Commission, on devrait connaître mardi d'autres résultats, car 18 autres États doivent toujours communiquer leur décompte des voix.
Toujours concernant l'annonce de ces résultats de l'élection présidentielle au Nigeria, un couvre-feu a été imposé pour la nuit dans l'état de Rivers, dans le delta pétrolier, dans le sud du pays. Une décision qui faisait suite à des troubles causés par la proclamation des résultats locaux selon le gouvernement de l'état. Jacques Aristide.
Un couvre-feu de 19h à 6h ce mardi, heure locale, afin d'éviter tout trouble à l'ordre public à cause de la situation politique tendue. Ce sont les mots du porte-parole du gouvernement de Rivers, Ibim Semenitari. Rivers est considéré comme l'un des états clés dans cette présidentielle qui se joue au coude à coude. Le bloc APC du candidat Muhammadu Buhari accuse le PDP, le parti du président sortant Goodluck Jonathan, de même que les responsables des bureaux de vote de l'État, d'avoir fraudé durant les scrutins du week-end. Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dimanche et lundi à Port Harcourt, la capitale de cet État, pour réclamer l'annulation du vote et la tenue d'une nouvelle élection. L'AFP rapporte que près de 2000 femmes de l'APC qui tentaient hier de pénétrer dans les locaux de la commission électorale ont été aspergées de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre.
Des forces tchadiennes et nigériennes ont attaqué lundi des îles du lac Tchad, servant de repère au groupe Boko Haram. C'est ce que rapportent des sources militaires à Niamey, citées par l'agence Reuters. Ni le Tchad ni le Niger n'ont fait de commentaires officiels sur l'opération. Les forces nigérianes qui ont lancé leur propre offensive contre Boko Haram ces dernières semaines n'ont pas participé à ces raids.
Un employé du Comité international de la Croix-Rouge a été tué et un membre de la Croix-Rouge malienne blessé dans l'attaque de leur convoi humanitaire lundi dans le nord du Mali. Selon un communiqué de l'organisation, le CICR a condamné fermement l'attaque et a appelé tous les belligérants à respecter et protéger les travailleurs humanitaires.
Selon l'organisation, son camion humanitaire arborait de manière très distincte le logo de la Croix-Rouge lorsqu'il a été ciblé lundi près de la ville de Gao dans le nord du pays. Le membre de la Croix-Rouge malienne blessé dans l'attaque serait dans un état stable.
La procureure chargée du procès des attentats qui ont fait 79 morts pendant la finale de la Coupe du monde de football en juillet 2010 à Kampala, la capitale de l'Ouganda, a été abattue mardi soir par des hommes armés circulant à moto, signale l'agence Reuters.
Selon la police, John Kagezi est décédé peu après son hospitalisation. Les enquêteurs cherchent à déterminer s'il y a un lien entre son assassinat et le procès des deux attentats revendiqués à l'époque par la milice islamiste des Shebab.
Le président Barack Obama va se rendre en juillet au Kenya, terre natale de son père, pour sa première visite dans ce pays depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2009, a annoncé lundi l'exécutif américain. Monsieur Obama va participer au sommet mondial de l'entrepreneuriat qui devrait rassembler plus de 1000 créateurs d'entreprises venus d'Afrique et d'ailleurs.
Le président américain aura également une série d'entretiens bilatéraux. Il s'agira du 4e voyage en Afrique subsaharienne de sa présidence.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Nouvel avertissement du président turc Recep Tayyip Erdogan à Téhéran. La Turquie ne tolérera pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran. Pour les observateurs, cette nouvelle fermeté des dirigeants turcs présente des risques dans la mesure où leur pays est en froid avec ses voisins. Des précisions avec Michel Joseph.
Hier, le chef de l'État turc a sommé ceux qui s'ingèrent dans les affaires internes du Yémen de s'en retirer. Jeudi dernier déjà, Recep Tayyip Erdogan avait accusé l'Iran d'avoir déployé des troupes au Yémen, avertissant qu'Ankara ne tolérera pas une domination du Moyen-Orient par l'Iran. Pour le chercheur Cengiz Aktar de l'université Süleyman Şah d'Istanbul, les propos d'Erdogan signalent un changement majeur d'attitude de son pays.
It's a very, very new policy line.
La Turquie pointant du doigt l'Iran et prenant directement à partie ce pays, c'est une politique très très nouvelle. Cela veut dire que les Turcs se rapprochent de plus en plus des Saoudiens et des Émiratis, devenant ainsi membres à part entière de l'alliance sunnite et régionale, a expliqué Cengiz Aktar. De l'avis des observateurs, la fermeté du nouveau roi saoudien Abdallah dans son soutien aux rebelles syriens et ses efforts pour contrer l'influence régionale de l'Iran ne sont pas étrangères à ce rapprochement entre Riyad et Ankara. Du reste, le parti AK d'Erdogan étant d'obédience islamiste sunnite, pas étonnant qu'Ankara voit de plus en plus la région à travers le prisme de la division chiite-sunnite, soulignent les experts.
Au Yémen, une frappe saoudienne a fait au moins 45 morts et des dizaines de blessés dans un camp de réfugiés dans le nord du pays lundi. Il y a des civils parmi les victimes, ont fait savoir des humanitaires. La frappe visait apparemment une installation militaire houthi des environs. Par ailleurs, la marine saoudienne poursuit son blocus pour empêcher les houthis de s'emparer du port d'Aden.
Une personne a été tuée et une autre blessée hier dans le Maryland quand leur véhicule a tenté de forcer l'entrée du bâtiment de la NSA, l'Agence de la Sécurité Nationale, près de Washington. Les précisions de Lionel Gaïma.
L'incident a été contenu et une enquête s'est ouverte, a déclaré le colonel Brian Foley. Commandant de la garnison de Fort Meade, le complexe militaire où sont basés la NSA, un des piliers de services de renseignement, et plusieurs autres agences fédérales. Il a ajouté que les habitants, militaires et personnels civils, sont sains et saufs. C'est le personnel de sécurité de la NSA qui a empêché les deux personnes de pénétrer dans le complexe. Des images télévisées montrent deux véhicules endommagés sur les lieux, dont un de la police de la NSA. Le FBI a dit à la VOA de ne pas croire à un lien avec le terrorisme. Mais selon un porte-parole de la Maison-Blanche, le président Barack Obama a été informé de cet incident. Quelques 29 000 civils et 11 000 militaires travaillent à Fort Meade. Le complexe abrite, outre la très sécurisée NSA, l'Agence de systèmes informatiques de la Défense et le US Cyber Command, le commandement militaire américain pour le cyberspace.
Le premier ministre grec Alexis Tsipras juge nécessaire de restructurer la dette grecque. Il s'est dit prêt lundi à mettre en œuvre l'accord conclu en février avec les autres pays de la zone euro sur une prolongation de l'aide à la Grèce, mais pas à n'importe quel coût. De son côté, l'Allemagne, premier créancier de la Grèce, a déclaré que la zone euro ne débloquera pas de nouvelle aide à Athènes tant que le gouvernement grec n'aura pas fourni une liste plus précise de réformes et donné à certaines d'elles force de loi. On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Jean-Roger Bion.
Les industriels de la sécurité en Afrique du Sud ont appelé hier le président Jacob Zuma à renoncer à promulguer une loi obligeant les multinationales du secteur à céder le contrôle de leurs filiales sud-africaines à des actionnaires locaux. Ces sociétés fournissent essentiellement du personnel de gardiennage, des convoyeurs de fonds et des vigiles. Le gouvernement justifie cette loi par des menaces pour la sécurité nationale, mais il est soupçonné d'agir au bénéfice d'intérêts privés, désireux de mettre la main sur ce secteur lucratif. En RDC, la révision du code mini au cœur d'une controverse, les acteurs du secteur ne cessent de se déchirer depuis la publication d'un ouvrage sur la question. La Chambre des mines exhorte à s'en tenir à l'existant. On écoute son président Simon Toumawaku.
Nous disons oui pour la révision du code minier, étant donné d'ailleurs que la constitution de notre pays est venue après 2002, donc il fallait l'adapter. Mais le régime fiscal douanier d'échange que nous avons adopté en 2002 ne commence à donner l'effet que maintenant. Donc le code, en fait, n'est en application que de 6 ans.
Simon Toumawaku, président de la Chambre des mines en République démocratique du Congo, au micro de nos confrères de Radio Okapi. L'Organisation mondiale du tourisme a dit lundi avoir une entière confiance dans la capacité de la Tunisie à rebondir après l'attentat sanglant du 18 mars au musée du Bardo malgré des premiers chiffres en berne. Le secteur du tourisme est stratégique pour l'économie tunisienne. Il n'a cependant jamais réussi à retrouver son niveau d'avant la révolution de janvier 2011 et de nombreux professionnels craignent une nouvelle chute cette année après les événements du Bardo.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Le Bénin n'a plus de fédération de football.
Oui, car le gouvernement a retiré l'agrément à la fédération béninoise de football. Les explications tout de suite avec Élisée Oumpatine.
C'est au Conseil des ministres que cette décision a été prise et 3 points ont été évoqués, notamment la crise qui secoue depuis toujours cette fédération et surtout la suspension des équipes des jeunes par la CAF. D'ailleurs, une commission sera installée pour connaître les dessous de cette suspension. Dans sa stratégie pour régler cette situation, le gouvernement a promis mettre en place un comité national de réconciliation ou de normalisation chargé de préparer les grandes assises effectives de la grande famille du football béninois et de prendre de nouvelles orientations devant créer un nouveau cadre de développement du football. Tout ceci avec l'appui des instances du football mondial CAF et FIFA. Ce qui a d'ailleurs obligé les membres du comité exécutif de cette fédération de se réunir ce lundi pour étudier et apprécier la teneur de cette décision. Précisons que en froid, depuis un bon moment avec le patron des sports, Safi Wafo, la fédération béninoise de football avec son président, l'honorable Augustin Aronwebla, ne pourront plus exercer leurs fonctions. La réaction de la FIFA est vivement attendue. Boycon, Élisée Oumpati, la voix de l'Amérique.
Match amicaux terminé pour le Cameroun.
Mené à la pause, le Cameroun s'est imposé en Thaïlande 3-2 grâce notamment à Mukanjo, buteur puis passeur. Les Lions indomptables bouclent leur tournée asiatique avec 2 victoires.
Et puis, le Gabon a été accroché en Turquie.
À Antalya, les Panthères gabonaises et la Biélorussie se sont quittés sur un score nul et vierge, 0-0. Le Gabon avait battu la semaine dernière le Mali 4-3 lors d'un autre match amical. Autre résultat, l'Algérie a battu Oman 4-1, c'était en amical à Doha.
On joue ce mardi en Europe.
Le vainqueur du match Israël-Belgique se hissera en tête du groupe B des qualifications pour l'Euro 2016. Ce sera tout à l'heure à Jérusalem lors d'un match reporté. En amical, le sélectionneur des Pays-Bas, Guus Hiddink, très critiqué à la suite de mauvais résultats des Oranges depuis sa prise de fonction, c'était l'été dernier, eh bien le sélectionneur fait le gros dos et s'attend à rencontrer des Espagnols revanchards. Ce sera ce mardi en match amical à Amsterdam, après le 5-1 infligé à la Roja, c'était lors du mondial brésilien, tout le monde s'en souvient. L'Italie et l'Angleterre, renaissant de leurs cendres après un mondial catastrophique, s'affrontent pour la 4e fois en moins de 3 ans. Ce sera tout à l'heure en match amical à Turin.
La CAF et la Tunisie enterrent l'âge de guerre.
La Fédération tunisienne de football a estimé que son conflit avec la Confédération africaine de football après l'élimination controversée de la Tunisie lors de la CAN 2015 était réglé et qu'elle participerait aux qualifications pour la CAN 2017. La CAF avait en effet donné à la Tunisie jusqu'à ce mardi pour présenter des excuses après des accusations de partialité lors de la CAN, faute de quoi les Aigles de Carthage auraient été exclus de la prochaine compétition continentale. Enfin Camille, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Eh bien, une très mauvaise soirée pour Milwaukee, battue 101-88 par Atlanta. Houston s'est incliné face à Toronto sur le score de 99-96. Boston a devancé Charlotte 116-104. Les Lakers de Los Angeles se sont repris hier soir pour battre de justesse Philadelphie, 113-111. Mais Memphis n'a pratiquement pas eu d'effort à faire pour écraser Sacramento, 97-83. Même chose pour Utah qui a expédié Minnesota par 104-84.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grosdidier pour présenter les dossiers du jour du Monde aujourd'hui. Nigeria d'abord. Plusieurs délégations d'observateurs présentes sur le terrain au Nigeria pour les élections ont surveillé donc le scrutin. Parmi elles, celle du National Democratic Institute des États-Unis, le NDI. Timothée Donangmaï a joint à Abuja le coprésident de la délégation et directeur pour l'Afrique du NDI, Christophe Fumio.
Certes, il y a eu quelques ratés, comme le retard dans l'arrivée des agents électoraux, le retard dans l'arrivée du matériel électoral, mais nous avons aussi constaté des améliorations par rapport au scrutin passé. Par exemple, les électeurs étaient très disciplinés, très calmes, très posés en attendant le démarrage du scrutin. Et dans la plupart des États, le jour du scrutin s'est déroulé sans violence, ce qui est quand même un fait remarquable dans un pays qui, par le passé, a connu des violences autour de ces élections.
La commission électorale a choisi d'introduire la biométrie et de nouvelles technologies. Quelle évaluation de ce côté?
En dépit de quelques ratés, surtout au niveau de l'authentification des informations biométriques de chaque électeur, cette nouvelle technologie a quand même permis à la Commission d'éviter les cas de fraude ou de bourrage des urnes. Parce que par le passé, c'était un fait réel. Certains acteurs avaient tendance à bourrer les urnes, même après la fermeture du bureau de vote. Or, avec la nouvelle technologie introduite par la Commission électorale indépendante, le nombre d'électeurs qui se présentent pour l'identification est vérifié et stocké dans la base de données de la Commission électorale. Ce qui a un effet dissuasif sur tous ceux qui auraient voulu bourrer les urnes par la suite ou ceux qui auraient voulu modifier les chiffres annoncés déjà à chaque bureau de vote.
Quelles sont les recommandations du NDI pour les prochaines échéances électorales au Nigeria?
Nous avons fait des recommandations allant dans le sens de renforcer la formation des agents électoraux, revoir la logistique dans le déploiement du matériel électoral. Nous avons aussi suggéré que les autorités nigériennes puissent revoir le processus de transmission des résultats parce que à l'état actuel, les résultats, une fois annoncés dans un bureau de vote, doivent transiter par les districts ou les arrondissements, les départements, l'État, avant d'arriver dans la capitale d'Abuja. Alors qu'avec la nouvelle technologie, on pouvait faciliter la transmission des résultats allant directement du bureau de vote à la base de données centrale de la Commission électorale indépendante.
Christophe Fomunio, directeur pour l'Afrique du National Democratic Institute.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi, tout sur le verdict des urnes au Nigeria, analyse et commentaires de nos invités, un scrutin d'ores et déjà jugé démocratique par l'Union africaine, mais des interférences politiques ont quand même été notées, vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum ce jeudi à 19h30.
Les défenseurs congolais des droits humains, solidaires de la campagne lancée par l'ONG Amnesty International pour la libération d'une trentaine de jeunes militants pro-démocratie détenus en République démocratique du Congo depuis le 15 mars. Eddy Sango a joint le président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, maître Georges Kapiamba.
C'est une action que nous saluons énormément parce qu'elle vient s'ajouter à toutes les autres actions que nous avons menées depuis que ces activistes pour démocratie ont été arrêtés et sont détenus au secret par des services de renseignement ANR, sans possibilité de recevoir la visite familiale ni l'assistance de leurs avocats, ce que nous considérons comme une violation flagrante des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et puis nous fustigeons le fait que ce service est publiquement encouragé par le gouvernement à travers son porte-parole et qui ne cesse de tenter à démontrer que c'est une détention régulière.
Amnesty parle des craintes de torture par rapport à ces gens qui ont été arrêtés. Est-ce que vous êtes de cet avis?
Nous avons eu les mêmes informations et déjà même pour les 10 membres du mouvement Lucha qui ont été arrêtés il y a 2 semaines à Goma parce qu'ils avaient organisé un sit-in devant le bureau de l'ANR pour exiger la libération de leurs collègues qui sont à Kinshasa. Nous savons que lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont été tabassés, maltraités. Même dernièrement, l'un des membres du mouvement, à savoir M. Kadhafi Mbuyamba, qui vient d'être libéré il y a 3 jours, il a rapporté à toutes nos organisations avoir été victime d'une torture morale pendant toute la détention. Donc, nous avons ces craintes, d'autant plus que la détention au secret d'une personne constitue une des formes de torture au regard de la Convention des Nations Unies contre la pratique des tortures et des traitements inhumains.
Les gouvernements les accusent de préparer une insurrection contre les pouvoirs en place. Est-ce que vous pensez que c'est fondé, ces accusations du gouvernement?
Non, c'est fantaisiste, sans aucun fondement. Vous savez, c'est du n'importe quoi. C'est regrettable que le gouvernement congolais ait choisi d'utiliser une pareille stratégie qui est de nature à diminuer davantage sa crédibilité aux yeux de l'opinion nationale comme internationale. Parce que si réellement les faits tels qu'articulés par lui étaient fondés, pourquoi n'avait-il pas pensé remettre ces jeunes gens à la justice?
Maître Georges Kapiamba, joint par Eddie Sango à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Camille Grodidier pour Le Monde aujourd'hui. Problématique de l'eau potable à Tombouctou, dans le nord du Mali. L'UNICEF a investi 300 millions de francs CFA pour offrir une eau de qualité aux populations de la ville. Cette somme a permis à la société malienne de gestion de l'eau potable de renforcer les capacités de ses équipements. Le point avec Kassim Traoré.
Les 300 millions de francs CFA de l'UNICEF ont permis à certaines installations de la SOMAGEP et de l'hydraulique de se mettre sur pied, avec comme objectif faciliter l'accès des populations à l'eau potable à Tombouctou. Chi Maïga, directeur régional de la SOMAGEP de Tombouctou.
L'UNICEF a intervenu chez nous. Présentement, nous sommes au niveau de la station de pompage. Ils ont intervenu sur les 2 débits mètres, un débit mètre de 200 et un débit mètre de 300. Donc, les débits mètres servent à voir la quantité d'eau qui passe à l'instant. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est pour nous aussi de voir la quantité d'eau que depuis que le débit peut être installé jusqu'à nos jours. Le troisième avantage aussi, c'est pour faire savoir à l'agent si un forage marche ou non.
Dans la périphérie de la cité de 333 Saint, plus précisément à Kabara, un vieux château de 22 ans a été refait grâce à l'appui de l'UNICEF. C'est là pour le bonheur des habitants de cette localité.
C'est de l'eau filtrée. Il y a deux sortes de filtres. Il y a un filtre là en coton, ça y est avec ma main, l'autre là c'est en charbon. C'est le charbon là qu'on met en drier pour très bien filtrer l'eau. Et puis les cotons, on met ça devant.
On est dans une zone qui est vraiment en nécessité de cette eau-là. L'eau qui sort directement de le robinet est une eau qui a besoin d'être traitée.
Issa Sogoré, membre du comité de gestion de l'eau potable de Kabara.
Avant l'arrivée de l'UNICEF, on puisait de l'eau dans des puits. Mais depuis l'arrivée de l'UNICEF, c'est à travers ces efforts qu'on a cette château. 11 bonnes fontaines.
Au niveau du centre de santé de Toya, les agents de santé apprécient l'installation des bonnes fontaines. Aminata Doumbia, directrice du CESCOM de Toya.
Chaque année, il y a l'eau pour le lavage des mains. Et puis au niveau de la salle de maternité, il y a l'eau pour les femmes enceintes et pour les femmes en travail aussi. Même au moment de l'accouchement, il y a l'eau potable dans la maternité.
Il a fallu le concours des agents de la direction de l'hydraulique de Tombouctou pour faciliter l'installation des bornes fontaines et la réhabilitation de certains châteaux d'eau. Kassim Traoré, de retour de Tombouctou, VOA Afrique.
En Guinée, l'opposition appelle à une journée ville morte jeudi. Les opposants contestent toujours le calendrier électoral qui prévoit de tenir la présidentielle le 11 octobre prochain, avant les élections locales en 2016. Nicolas Pino a joint Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne.
La journée ville morte que l'opposition guinéenne projette s'inscrit dans un cycle de manifestations que nous avons décidé d'initier suite au refus du gouvernement et de la Commission électorale nationale indépendante d'organiser enfin les élections communales dont les mandats ont expiré depuis plus de 5 ans. Quant aux manifestations sur les places et sur les voies publiques, nous avons décidé de commencer par cette journée ville morte. Nous allons aller vers des sittings, vers des meetings, vers des marches pacifiques, tant à l'intérieur du pays qu'à Conakry. Et nous sommes donc dans cette crise politique qui n'en finit pas de perdurer parce que le gouvernement n'est pas ouvert au dialogue, parce que la CENI et le gouvernement violent systématiquement la Constitution et les lois de la République, l'objectif étant d'organiser une véritable mascarade électorale le 11 octobre prochain pour plébisciter en quelque sorte le président sortant. Ce que nous refusons catégoriquement, nous inscrivons dans la logique d'élections transparentes et crédibles.
Pourquoi finalement ne pas boycotter ces élections présidentielles, puisque le calendrier ne sera pas changé par la CENI?
Nous pensons qu'il est possible de changer le calendrier parce qu'il est établi par certains commissaires qui sont au sein de la Commission électorale nationale indépendante qu'il est parfaitement possible, dans l'intervalle du temps qui nous sépare de l'élection présidentielle, c'est-à-dire dans l'intervalle de 7 mois, qu'il est parfaitement possible entre-temps d'organiser les communales avant l'échéance du 11 octobre. Donc nous nous engageons dans ces manifestations pour obliger le gouvernement et la CENI à tenir compte de notre Constitution, qui prévoit des mandats bien définis et qui doivent être renouvelés chaque fois qu'ils arrivent à expiration.
Après avoir dénoncé l'organisation puis les résultats des législatives et finalement siégé quand même à l'Assemblée nationale, est-ce que l'opposition guinéenne ne s'est pas décrédibilisée?
Non, écoutez, nous avons pensé que le score que nous avons pu obtenir aux élections législatives, malgré la fraude généralisée, nous avons pu quand même avoir un score qui nous mettait à l'abri d'un raz-de-marée qui pouvait permettre aux députés du pouvoir de faire ce qu'ils voulaient au niveau de la Constitution et des lois. Nous avons eu un score à peu près de 45%. Le pouvoir, avec tous ses alliés réunis, a pu avoir donc 55%, ce qui permet à l'opposition guinéenne, avec 49 députés, de nous opposer au vote des lois organiques sans notre consentement.
Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition guinéenne.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Ici Washington, Camille Grodidi avec vous. L'impact des attaques de la milice djihadiste Boko Haram se fait ressentir dans l'extrême sud-est du Niger. Ces offensives perturbent entre autres le commerce dans la région. On écoute Ali Al-Husseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de la région de Diffa, au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall.
Vous savez, Boko Haram sévit dans cette région il y a de cela 2 ou 3 mois. Les conséquences sont énormes. Les commerces sont fermés, les écoles sont fermées. Il y a des milliers de personnes qui se sont déplacées. Il y a des dégâts incalculables sur le plan économique parce que quand vous prenez la région de Diffa, c'est une région phare en matière de poivrons, à 27 milliards de poivrons par an. Et on a 16 milliards de poissons par an qui transitent par la région de Diffa. C'est ça la base de notre économie.
Et aujourd'hui, ça n'est où maintenant?
Ça ne marche pas dans la mesure où ces exactions ont fait en sorte que ce commerce est tari. L'État a pris des dispositions au niveau régional pour pouvoir stopper ce commerce-là. Parce qu'il intercepte les populations qui ont les poivrons, les populations qui ont le poisson pour avoir une manne qui leur permette de faire la guerre. Dès lors qu'on a mis fin à cette situation-là, rien qu'avant-hier, les éléments de Boko Haram qui ont voulu se rendre parce que effectivement ils ont été coupés de la source.
Il y avait un financier de Boko Haram qui habitait ici même à Diffa et qui est actuellement aux arrêts.
Je le connais, il s'appelle Captain Kakabounou. Il a été une première fois pris et il a été relâché parce qu'il n'y avait pas de preuves sur lui. Au Niger, notre insuffisance, c'est qu'on n'a pas de spécialistes en matière de criminalité dans la région de Diffa. Maintenant, il a été traduit à Niamey. Ils ont investigué les forces tchadiennes, les forces nigériennes, avec l'appui donc de la France. On a pu détecter ce monsieur. On a trouvé des roquettes chez lui. On a trouvé des milliers, des centaines de dollars avec lui. Donc, c'est lui qui commanditait cette opération pour nuire à la population de Diffa. Boko Haram, c'est des gens qui n'ont ni foi ni loi. On tue des musulmans, on tue des chrétiens, on tue des enfants, on tue des femmes. Pour quel objectif ils voulaient, on ne les connaît pas. Mais on attend qu'aujourd'hui qu'on fasse la part des choses pour effectivement démanteler ceux-là qui sont leurs complices pour pouvoir effectivement rendre justice à la nation.
Ali Al-Husseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de la région de Diffa au Niger.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, rap, music. Et notre sujet de cette semaine, comment éviter les conflits avec sa belle famille? Comment améliorer la relation avec sa belle famille? Ah, faut pas rater ce sujet les amis. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-5892-8540. Je répète, c'est le 225-5892-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. C'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous souhaite une très bonne journée.
Soyez au cœur de l'info.